Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Depuis plusieurs mois, Donald Trump remet la menace au cœur du jeu international. Menace de ne plus défendre les alliés de l'OTAN, jugés mauvais payeurs. Promesse de droits de douane massifs contre la Chine et l'Union européenne. Déclaration ambiguë sur le soutien à l'Ukraine. Ou encore volonté affichée de régler certains conflits par des rapports de force directs. À chaque sortie, la même question revient. Faut-il y voir des provocations électorales, des coups de bluff ou alors les prémices d'un bouleversement géopolitique majeur? Car même quand elles ne sont pas appliquées, ces menaces produisent déjà des effets, elles inquiètent les alliés, encouragent les adversaires à tester les limites et installent une incertitude permanente dans l'ordre international. Alors comment analyser cette diplomatie de la menace? Jusqu'où faut-il prendre Donald Trump au sérieux? Et surtout, que nous dit cette stratégie du monde qui se prépare? C'est ce que nous allons décrypter aujourd'hui. Bonjour, je suis François-Xavier de Calonne. Donald Trump et la diplomatie de la menace. Jusqu'où faut-il le prendre au sérieux? Votre nouvel épisode de Coulisses politiques avec le journaliste fin connaisseur des questions internationales Henri Vernet. Bonjour.
Bonjour.
Dans votre émission, vous entendrez aussi les interventions d'un homme qui connaît parfaitement la personnalité de Donald Trump et les États-Unis, le spécialiste des États-Unis Jean-Éric Brana. Et vous allez nous dire à Henri Vernet ce qui a changé entre les deux mandats de Donald Trump. Mais d'abord, je vous propose justement d'écouter l'analyse de Jean-Éric Brana.
C'est vrai que Donald Trump, dans la première partie de sa première présidence, a montré que la politique étrangère ne l'intéressait que si elle était transactionnelle, qu'il pouvait faire des contrats. D'ailleurs, il avait rompu de façon assez forte avec les traditions, notamment en ne se rendant pas pour un premier déplacement au Canada ou au Mexique, comme ça se faisait jusqu'alors, mais en partant d'abord pour l'Arabie Saoudite, puis Israël et ensuite le Vatican. Il avait donc rencontré les trois grandes églises et c'était quelque chose qui avait été largement commenté avant qu'on se rende compte qu'en réalité, ce qu'il regardait, c'était surtout les contrats qu'il pouvait ramener, notamment avec l'Arabie Saoudite, où on avait plusieurs milliards de contrats promis qui n'ont jamais été au bout, pour l'anecdote, mais quand même. C'était un événement parce qu'il se présentait comme celui qui pouvait enrichir l'Amérique et donc ramener des contrats, ramener des emplois et ramener de l'industrie dans le pays. Il n'a pas pu aller au bout, principalement à cause de la Covid. Dans ce second mandat, il poursuit en partie cette dynamique, mais il y a un vrai changement, puisque à la fois son discours s'est renforcé sur l'isolationnisme, et ce qu'on va appeler l'America First, qui est une idée forte et structurante de sa seconde présidence, mais avec des interventions extérieures qui vont rompre avec cette America First. On l'a vu au Venezuela, on l'a vu avec sa demande sur le Groenland, on l'avait vu aussi avec différentes interventions, que ce soit au Nigeria, en direction de l'Afrique du Sud, en Syrie, enfin autant de champs d'action qui rompaient avec cet isolationnisme et le côté « je ne m'occupe que de ce qui est l'intérêt de mon pays ». Donc il y a quand même d'autres facteurs et d'autres dynamiques qu'il faut regarder d'un peu plus près pour comprendre Donald Trump.
À d'autres facteurs, d'autres dynamiques, des changements et des menaces également, Henri Vernet.
Oui, puisqu'il explique cette posture différente, en effet, entre Trump 1 et Trump 2, hein, on va dire, c'est que le Trump 2 qui arrive, Donald Trump, il y a un an, bah, c'est un Trump qui est revanchard, parce que il revient à la Maison-Blanche, mais dont il estimait qu'il n'aurait jamais dû partir, puisque on se souvient du 6 janvier 2021, quand ses partisans ont quasiment, carrément même, envahi le Capitole, tout simplement, parce qu'il niait sa défaite. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'il revient. C'est aussi un Donald Trump qui s'est considérablement radicalisé entre ces deux mandats. Il s'est rapproché de l'extrême droite suprémaciste américaine. Et donc ça a évidemment beaucoup joué. Et puis, c'est l'idée aussi de cette posture internationale qu'il veut avoir. Donc, tout isolationniste soit-il, c'est quand même d'abord quelqu'un qui veut régenter le monde, qui veut imposer la puissance américaine et qui ne veut qu'une chose, c'est le prix Nobel. Il le dit et le répète, il a cette envie d'avoir son prix Nobel. Il estime que là, lui a été carrément volé par les, à Oslo il y a quelques mois. Et donc, il veut ça. Et il y a aussi cette envie de laisser une trace dans l'histoire, de mettre son nom partout. Les gens sont frappés aux États-Unis de la manière dont il rebaptise des grandes salles de spectacle, dont il veut sa fameuse ballroom, salle de bal magnifique au sein de la Maison Blanche qu'il veut faire construire. Il veut son nom, mais dans les grands parcs nationaux, enfin partout. Donc il y a vraiment cette obsession, Trump, de marquer son temps et au-delà l'histoire.
Quand on vous écoute, on a le sentiment que la mégalomanie est son moteur.
Il y a de ça, oui. Regardez par exemple le Groenland que votre intervenant vient de citer. Le Groenland, alors, on y reviendra, mais il y a aussi des raisons totalement subjectives et un peu baroques. C'est tout simplement que s'il arrivait à l'acquérir, eh bien, d'une manière ou d'une autre, ça ferait des États-Unis le plus grand pays du monde. En quelque sorte, il en remontrerait à son à la fois rival et qui le fascine, Poutine. Donc il y a cette idée quoi, du gamin dans la cour de récré qui veut être le premier.
Alors il y a ce rapport de force. Mais le rapport de force utilisé comme outil diplomatique, ce n'est pas nouveau. Seulement avant, il y avait davantage de garde-fous qui sont affaiblis aujourd'hui.
Avant, il y avait un droit international. Mmh. Il y avait, en gros, il y avait l'ONU, il y avait des règles qui étaient assez partagées, qui étaient issues donc, de la Seconde Guerre mondiale de 1945 et qui ont été largement partagées, disons, aller jusqu'à la fin du XXe siècle, le début du XXIe. Là, aujourd'hui, c'est en effet, et ce qu'impose Trump, c'est ça, c'est la loi du plus fort. Et donc, on pourrait dire que, vous savez, c'est cette réplique signée Audiard, hein, mais que prononce Jean-Paul Belmondo dans un film. Hein, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 les écoutent. Bah ouais, bah pour Trump, c'est un peu comme ça. Les types de 130 kilos, c'est lui-même, c'est le président américain, c'est Poutine avec toute sa brutalité, c'est le chinois Xi Jinping. Et c'est vrai que les autres puissances, on le voit pour l'instant, elles sont intimidées, elles sont comme des insectes pris dans les phares des voitures. On a bien vu pendant cette première année à quel point bien des pays sont tétanisés. Et à cet égard, là, on a cité tout à l'heure l'OTAN, les rapports avec l'Europe, évidemment, les crises actuelles, hein, le Venezuela, les prétentions sur le Groenland. Et à cet égard, le récent sommet de Davos en Suisse a été marqué par un discours très pertinent, très intéressant, sans doute, qui va marquer de la part de Mark Carney, le premier ministre canadien, et d'abord qui a résisté totalement à Trump hein, dans ses différentes visées, mais surtout qui a proposé de faire une alliance des puissances moyennes.
Parce que rappelons hein, que Donald Trump a des velléités aussi sur le Canada. Il souhaite que ça devienne le 51e État américain.
Exactement, il l'a dit à plusieurs reprises, même si aujourd'hui c'est moins devant l'actualité, il n'a certainement pas renoncé.
Même si le Canada a tout de même modélisé la manière dont il pourrait répondre à une éventuelle attaque états-unienne.
Bah bien sûr, c'est un grand pays indépendant qui n'entend en aucun cas se laisser faire comme ça.
Alors, contrairement à 2019, hein, ces menaces interviennent dans un contexte de militarisation accélérée de l'Arctique par la Russie, de montée en puissance chinoise. Est-ce que cela change la crédibilité des propos de Donald Trump, par exemple sur le Groenland? On a vu ce récent revirement sur le Groenland.
Alors, quelque part, c'est vrai que ça donne malgré tout une certaine crédibilité. Alors, d'abord, cette revendication américaine sur le Groenland, là, pour le coup, elle n'est pas nouvelle. Hein. Elle s'exprime depuis plus d'un siècle. Elle avait été exprimée par Trump lui-même dans son premier mandat. Mais disons que c'est un petit peu une constante de la politique extérieure américaine. Alors, crédibilité, c'est certain que quand il parle d'une zone qu'il faudrait davantage sécuriser parce que le monde change, parce que justement, par exemple, le changement climatique eh bien, fait que des routes, alors on peut le regretter parce qu'évidemment, ça veut dire que la planète se réchauffe, mais enfin, des routes maritimes stratégiques vont s'ouvrir, commencent déjà à le faire et plus encore dans les années à venir. Il y a évidemment aussi ces possibilités, ces ressources, mais difficiles à atteindre en minerais rares, minerais critiques, hein, ces terres rares dont on a extrêmement besoin dans la technologie. Tout cela s'est recelé par le Groenland. Et donc, quand Donald Trump dit, écoutez, il faut défendre ce territoire donc dans la sphère occidentale contre les appétits des Russes et des Chinois, c'est quelque chose qui pourrait s'entendre et qui donc là irait dans le sens d'une certaine crédibilité. Mais justement, les Européens, assez habilement, ont répondu en disant « Mais très bien, allons-y, sécurisons-le ensemble ». Et donc c'est pour ça qu'ils y ont envoyé des troupes, alors à un niveau extrêmement modeste, extrêmement réduit. Oui, mais il s'agit d'éléments précurseurs. L'idée, c'est de montrer les quelques soldats français, allemands, danois évidemment.
Les Allemands qui sont vite repartis d'ailleurs.
Oui, qui sont repartis, il faut le remarquer, juste après les menaces de Trump de rehausser les taxes sur les produits européens et allemands en particulier. Donc c'est clair que la fiabilité, la résistance européenne, elle est testée en permanence et elle n'est pas toujours très présente. Mais enfin là quand même, il y a eu un certain bloc et justement qui a permis de relativiser malgré tout les menaces de Trump, parce que le fait est que maintenant il temporise un peu, il parle moins de la force, il évoque des négociations. Donc, disons que oui, peut-être que la crédibilité de Trump avec son gros bâton, ça, sur ce terrain-là, c'est peut-être atteint, mais attention à la prochaine étape. Trump, vous vous réveillez le matin, vous ne savez pas ce qu'il va inventer et ce qu'il va sortir comme énormité.
Et l'OTAN a semblé très affaiblie ces dernières semaines. Est-ce le cas encore aujourd'hui, sachant que l'évolution est extrêmement rapide?
Oui, bien sûr, c'est le cas. L'OTAN est affaiblie, mais regardez justement dans cette affaire de quoi il s'agit avec ses convoitises sur le Groenland, donc y compris par la force, comme il le disait. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que l'OTAN attaque l'OTAN, puisque le Danemark, non seulement est un allié qui fait partie de l'OTAN, mais en plus, et depuis des décennies, est l'un des alliés européens les plus alignés sur la politique américaine. Évidemment que si l'OTAN, par exemple, menacé et attaqué par les États-Unis, faisait appel à la solidarité européenne au nom d'un article qui existe, qui est l'article 42.7 de la charte des Européens, qui est le pendant de l'article 5 de l'OTAN, et bien si le Danemark faisait appel aux autres pays européens pour se défendre d'une agression américaine, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on aurait des soldats américains, donc de l'OTAN, qui tireraient contre d'autres soldats de l'OTAN, les soldats européens. Bon, là, je pense quand même qu'on est dans la fiction. Non, enfin, pas dans la fiction, mais en tout cas, disons, dans le scénario le plus poussé, on voit que Trump lui-même temporise, voire fait pas marche arrière, mais en tout cas ne semble plus s'y décider sur ce scénario. Il faut dire aussi que Donald Trump, il a bien constaté que le Groenland, les Américains, ils s'en fichent, c'est pas quelque chose qui les intéresse. L'opinion est plutôt hostile majoritairement à ce projet de conquête, entre guillemets, mais même jusque dans la classe politique, jusque dans le camp républicain, il y a de très fortes réticences. Alors sans parler des militaires quand même qui essaient de le raisonner un peu. Donc on voit quand même que là-dessus, il met de l'eau dans son vin.
Ce dont on parle, la politique extérieure des États-Unis, ces bouleversements, est-ce que cela intéresse la population états-unienne? Est-ce que les habitants du Texas, par exemple, s'intéressent à ce que Donald Trump fait en Iran, au Proche-Orient, ses velléités sur le Groenland?
La population, non, pas vraiment. Ben, je l'ai dit, par exemple, sur le Groenland, les sondages ont montré qu'ils y sont plutôt hostiles. D'autant plus que si ça a des répercussions économiques, c'est ça qui intéresse les Américains. C'est vraiment aujourd'hui le niveau de l'inflation, c'est la cherté de la vie, ce sont toutes ces questions-là. Et donc, c'est ça qui est le curseur pour Donald Trump. Il faut d'ailleurs remarquer que l'une des raisons aussi qui ont provoqué, alors sinon sa volte-face, en tout cas, la manière dont il marque le pas sur le Groenland, c'est que justement l'indice, le Dow Jones, tout ça se commençait à dégringoler parce qu'il y avait une inquiétude sur les différents projets guerriers du président, que donc tout ça n'est pas jugé bon pour l'économie. Or, aux États-Unis, la bourse, l'économie, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vital. On le rappelle assez souvent, les Américains, ils ont tous l'argent de leur retraite, en gros, qui est placé, qui se trouve dans des placements. Donc non, là-dessus, l'opinion, c'est pas vraiment son truc. Et dernier point, il ne faut pas oublier que dans 10 mois, il y aura, en novembre 2026, il y aura les midterms, les élections intermédiaires, et que ça, évidemment, c'est un point de mire très important pour Donald Trump.
Et c'est passionnant ce que vous dites, parce que ce n'est plus l'ONU ou d'autres instances qui servent de garde-fous, mais là, en l'occurrence, c'est la bourse.
C'est la bourse, ouais. Bah, de toute façon, ouais. L'ONU, les alliances comme l'OTAN, comme l'alliance avec les Européens, l'Union Européenne, tout ça, Trump, il veut casser. Oh, oui, il reste la bourse, oui.
Alors, au Moyen-Orient, l'Iran a dit jeudi dernier avoir le doigt sur la gâchette face aux menaces états-uniennes, tandis que le président américain Donald Trump a lui estimé que Téhéran était disposé au dialogue. Donald Trump qui a prévenu qu'une armada était en route vers le Golfe au cas où. Alors, qu'est-ce qui intéresse Donald Trump en Iran et comment ses alliés régionaux perçoivent cette ambivalence des États-Unis?
D'abord, là aussi, il ne faut pas oublier non plus les considérations historiques. Hein. L'Iran, c'est de toute façon l'ennemi juré numéro un des États-Unis réciproquement depuis la révolution islamique de 1979. L'Amérique était d'ailleurs désignée comme le grand Satan, le petit Satan étant Israël et quelques autres. Donc, il y a quand même cette histoire-là. Il y a aussi le jeu des alliances dans la région, l'allié, le protégé indéfectible de Washington dans la région, c'est Israël. Israël étant lui-même en hostilité totale avec l'Iran, ça explique aussi la manière, enfin, toute l'importance que Donald Trump y accorde. On a vu d'ailleurs que dans la guerre dite des 12 jours de juin dernier, c'est-à-dire les bombardements israéliens sur les sites stratégiques nucléaires de l'Iran.
Avec l'appui des États-Unis, oui.
Exactement. L'appui des États-Unis n'a pas tardé, y compris des bombardements décisifs avec les fameuses bombes énormissimes capables de transpercer, d'aller très profond, détruire les centrifugeuses et les programmes clandestins. Donc il y a cette alliance-là. Il y a aussi, de toute façon, le fait que Trump veut mettre à bas ce programme nucléaire militaire du régime des Mollahs. C'est vraiment une cible importante pour lui, et puis d'être vraiment le garant d'un retour à l'ordre dans cette région de Gaza à l'Iran.
Est-ce qu'il a lâché la population iranienne face à ce soulèvement d'une ampleur inédite, en tout cas dont la répression a été d'une ampleur inédite?
De fait, il les a lâchés, même si, attention, de tels mouvements, de telles révoltes, de telles révolutions, c'est d'abord l'histoire des peuples à l'intérieur. Et là, on voit bien quand même qu'il
ne
souhaite
pas forcément d'ingérence, hein, ça c'est important. Exactement, de souligner, vous le faites. Ouais.
C'est ça, ils ne veulent pas en avoir, ils veulent vraiment essayer de régler les choses d'eux-mêmes. Bon, maintenant, c'est clair que dans un processus tel, et puis avec un régime qui est quand même aussi solidement implanté avec les moyens de répression dont il dispose, c'est vrai qu'une aide était attendue. Et quand vous dites, est-ce qu'il les a lâchés? Oui, il les a lâchés, puisque très explicitement, Donald Trump a incité les Iraniens à continuer d'aller dans la rue en leur disant, l'aide arrive. L'aide américaine va arriver. Et puis rien n'est venu, et on a vu à quel point tout cela a été réprimé dans le sang. Donc oui, on peut parler d'un lâchage, même si on peut penser aussi que pour l'instant, le mouvement il est suspendu, mais enfin, sans doute, reprendra-t-il très vite.
Tout simplement, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il l'a arrêté?
Le président américain a prétexté du fait qu'il a obtenu du régime qu'il n'exécute pas des centaines, voire des milliers de prisonniers politiques, de gens qui ont été vraiment justement raflés pendant toute cette répression, et que donc le régime ne les exécute pas, ce qui en effet s'est passé. Alors certains ont douté, non, il semble en effet avéré qu'il y a eu des contacts directs entre les deux diplomaties iraniennes et américaines sur ce point-là. Par ailleurs, c'est vrai aussi que les alliés des États-Unis dans la région, donc à commencer par ceux qui souvent servent d'intermédiaires, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, ont aussi œuvré pour modérer un peu les choses, tout simplement parce que il y a une crainte des représailles, des passes d'Aran, des forces iraniennes dans la région s'il y avait des attaques américaines. Donc ça a joué. Trump lui-même, d'ailleurs, enfin en tout cas les Américains eux-mêmes ont pu estimer que pour l'instant il n'était pas suffisamment déployé pour protéger leur propre base. On sait que les Américains ont des bases, par exemple, très importantes dans la région, notamment au Qatar. Donc tout ça a pu jouer. Maintenant, l'histoire n'est pas finie parce que cette armada impressionnante, porte-avions, sous-marins, navires d'attaque, évidemment tous les moyens en termes de missiles et de bombes qui sont dépêchés sur place, est-ce que ça prépare une attaque, par exemple, contre de très nombreux sites, casernes, installations de passes d'Aran pour frapper, les affaiblir et inciter de nouveau la population à sortir pour changer le régime au final, bah ça, c'est, ça reste une possibilité.
Et là encore, hein, le nerf de la guerre, l'argent, avec cette crainte d'agacer les pays du Golfe.
Oui, bien sûr, et puis de faire flamber les prix du pétrole aussi.
Voilà. Sur la dangerosité de Donald Trump, dangerosité supposée, d'un point de vue global, sa politique au Proche-Orient, quand Donald Trump a dit vouloir faire de Gaza une riviera, tout le monde a ri jaune, hein, mais il semble se diriger vers cela, c'est en tout cas ce qu'il continue de réaffirmer. Je vous propose de réécouter Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, et vous nous ferez part de votre analyse, Henri Vernet.
Donald Trump ressemble à un hamster dans sa roue, emballé avec le grand emballement, hein, on va dire. C'est une décision qui en suit une autre, et puis finalement, la suivante doit être plus forte que la première. Et en voulant, à ce point-là, avoir une présence médiatique forte et avoir l'air d'être tout le temps le plus fort, puisque ce rapport de force était très important pour lui, eh bien, on se dit qu'il pourrait tomber sur la mauvaise idée, qui lui a fait dire, par exemple, qu'il voulait prendre le Groenland par la force, là encore, ce qu'il ne peut pas faire sans l'aval du Congrès, mais il l'a quand même dit. Et c'est très inquiétant, puisque rappelons que Donald Trump est commandant en chef des armées, qu'il est celui qui dirige la diplomatie, qui est celui qui dirige le pays et qui décide donc de la protection, y compris de nos propres intérêts ou de la mise en danger de nos intérêts. Je parle là des Européens et des Français. Il est celui qui décide de l'usage des sanctions comme levier économique. Tout ça, c'est très important parce qu'il peut y avoir une confusion entre l'intérêt national, l'intérêt des entreprises américaines ou son propre intérêt ou simplement aucun intérêt du tout, mais l'illusion que l'intérêt américain est important dans une décision que je n'ai pas en tête et je préfère ne pas en avoir, mais que Donald Trump ne serait arrêté par personne parce qu'il manque des garde-fous aux États-Unis, notamment pour la décision ultime qu'il est la seule à pouvoir prendre et décider.
Voilà, Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Pouvez-vous vous nous rappeler, Henri Vernet, tout simplement ce que devrait être ce fameux conseil de la paix voulu par Donald Trump ?
On pourrait presque dire que c'est une ONU privée. L'idée, c'est que Donald Trump, bah, lui-même, choisisse et invite des États, donc des dirigeants, présidents ou chefs de gouvernement, ou tête couronnée d'ailleurs, à venir autour de lui. Alors au départ, il s'agissait vraiment de gérer la transition à Gaza. En fait, non, avec ce conseil de paix, ce Board of Peace, c'est très étendu, ça va bien au-delà. L'idée, c'est vraiment de gérer un petit peu l'état du monde, de prévenir les guerres, de faciliter les transitions politiques. Enfin, c'est la mission que donne la charte de l'ONU. Sauf que là, eh bien, les membres, encore une fois, ce ne serait pas du tout l'ensemble des 190 et quelques pays recensés par les Nations Unies. Ce serait vraiment ceux qui seraient choisis par le président américain. Lui-même, d'ailleurs, serait le président à vie de cette instance, alors que les autres membres, les dirigeants, eux, ne seraient conviés que pour 3 ans. Et si vous voulez rester plus longtemps que 3 ans, ben, il faudrait payer 1 milliard. Donc en plus, c'est une ONU privée et assez chère. Et avec dans son idée des pouvoirs assez étendus dans des zones qui sont pour autant totalement indépendantes et qui peuvent réfléchir elles-mêmes à leur propre destin. Donc c'est pourquoi la France a été d'emblée l'un des premiers pays à rejeter d'emblée cette proposition de Trump, tout simplement parce que la France quand même reste la championne du multilatéralisme et de la défense du droit international, et que donc elle ne voit absolument pas l'intérêt de travailler ensemble en dehors du cadre de l'ONU, qui est certes imparfait, qui est certes à réformer. Paris et d'autres d'ailleurs plaident depuis longtemps pour une réforme de l'ONU, pour que à la fois l'ONU ressemble davantage au monde actuel, hein, et non pas celui issu de 1945, c'est-à-dire notamment que dans les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, rentrent des pays africains, rentrent des pays comme l'Inde, comme le Brésil, également en Europe, l'Allemagne, qui n'y est pas. Bref, donc à la fois plus égalitaire en quelque sorte et plus efficace. Bon, et donc c'est cela le chemin qui devrait être pris selon les tenants du multilatéralisme et surtout pas une ONU privée. Et on voit d'ailleurs à quel point cet organisme, quoi, cette instance à la main de Donald Trump, encore une fois, ça veut dire quoi, président à vie, c'est totalement baroque parce que par exemple, quand Mark Carney, le premier ministre canadien dont je parlais, a fait ce discours qui a totalement agacé Trump, discours à Davos en Suisse, eh bien, la première rétorsion de Trump, c'était de dire « Ah ben, finalement, le Canada, j'en invite plus dans mon conseil. » Parce qu'il l'a fait dans un premier temps, il avait invité le Canada, invitation retirée en représailles contre ce discours.
Voilà, la punition.
La punition.
Alors, est-ce que c'est un pétard mouillé, ce conseil de la paix? On a posé la question à Jean-Éric Brana.
Son conseil de la paix, cela ressemble à un pétard mouillé, hein, avec une organisation multilatérale, alors qu'il a toujours été opposé aux organisations multilatérales, pour essayer d'avancer sur une paix qui semble condamnée d'avance, puisqu'on est arrivé maintenant au point qui fâche, à savoir que le Hamas doit rendre les armes, rendre les clés du pays et laisser des autorités administratives indépendante, ou en tout cas pas eux, prendre les rênes du pays, et que ça va être très compliqué à obtenir, voire impossible. Là-dessus, il n'y a pas de plan B. Et à partir du moment où il n'y a pas de plan B, vous pouvez faire toutes les organisations multilatérales que vous voulez, à part de dire que cette organisation qui est désormais responsable et que ce n'est plus Donald Trump, et donc qui se lave les mains de l'échec qu'il pourrait y avoir, le plan de paix est désormais dans l'impasse. Soulignons et rappelons quand même qu'il a obtenu la libération des otages et que ça, c'était quelque chose de très important.
Et rappelons que la phase 2 de ce plan a démarré et que cette phase 2 semble plus difficile à mettre en œuvre que la première, hein, cette phase du plan dit de paix de Donald Trump. Henri Vernet, la situation au Liban, vous êtes entretenu samedi dernier avec le premier ministre libanais Nawaf Salam. Le Liban, partenaire historique de la France qui, on s'en souvient, a organisé des conférences internationales de soutien pour le peuple libanais et pour le Liban, ce pays qui vit une grave crise financière. Quand vous discutez avec le Premier ministre libanais, qu'est-ce qui ressort de son propos sur cette situation ?
L'urgence d'en sortir. D'ailleurs, quand vous parliez de conférences, il y en a une justement qui est prévue à Paris le 5 mars prochain. Et l'idée, donc, ce que demande le Premier ministre Nawaf Salam, c'est qu'on avance dans tout ce qui pourra favoriser la reconstruction du Liban. Le fait que ce pays puisse à nouveau attirer des investisseurs étrangers dont le pays a vraiment un besoin extrêmement important et encore une fois urgent, qu'il puisse y avoir bien sûr aussi le soutien quand même en matière de sécurité, parce que c'est là le grand enjeu de ce pays où le Hezbollah continue de peser malgré les échecs qu'il a pu avoir ces dernières années sur le plan militaire. Je pense à la manière dont l'armée israélienne a affaibli et l'a décapité d'abord de tous ses cadres et l'a considérablement affaibli.
Dont Nasrallah.
Exactement, dans son guide Nasrallah. Néanmoins, le mouvement, il existe encore, il pèse encore. Et justement, l'un des grands défis, il le rappelait le Premier ministre, c'est d'aller vers un désarmement. Alors, sinon un désarmement vraiment effectif tout de suite, parce que ça, il y faut du temps. En tout cas, un contrôle bien plus précis des armes qui peuvent circuler. Alors, ça se fera en différentes phases au sein du Liban. Mais en tout cas, c'est vraiment très important que ce processus soit enclenché, qu'il marche. Mais pour ça, il y a besoin du soutien de grands pays, à la fois du soutien financier, du soutien en équipement aux forces armées libanaises pour qu'elles puissent reprendre du terrain, reprendre le contrôle et devenir à terme les seules détentrices, vous savez, de ce qu'on appelle l'usage légitime de la force. Quoi, que ce ne soit pas partagé. Donc tout ça, forcément, ça prend du temps. Il y faut l'appui de la France et évidemment un appui diplomatique aussi. Alors non seulement de la France, mais de toutes les puissances et les, et les organes qui peuvent jouer un rôle en ce sens, tout simplement aussi faire respecter le cessez-le-feu. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des bombardements israéliens, il y a encore des affrontements entre des escarmouches, en tout cas, sporadiques, mais enfin quand même relativement fréquents, entre le Hezbollah et les forces israéliennes, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que le cessez-le-feu, que la situation soit vraiment apaisée. Donc toutes ces questions-là, il faut vraiment avancer dessus pour que ce pays puisse retrouver une vie et surtout un développement, une prospérité vraiment souhaitable.
Henri Vernet, vous avez rencontré le Premier ministre libanais au lendemain de sa rencontre avec Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée, au menu des discussions le cessez-le-feu avec Israël, la question du monopole de l'État sur les armes, vous l'avez évoqué, ou encore le soutien de la France à l'armée libanaise en vue de cette conférence internationale de soutien à la souveraineté du Liban le 5 mars prochain à Paris. Est-ce qu'il vous a parlé de cette rencontre avec Emmanuel Macron et quel bilan fait-il ?
Il est évidemment très intéressé par ces propositions-là. C'est vrai que vous savez, par exemple, la FINUL, la force internationale onusienne, qui est là, mais depuis des décennies. Elle est appelée à cesser à la fin de l'année 2026. Pour autant, on voit bien que les problèmes, les différents, l'État, non pas guerrier, mais quand même sécuritaire extrêmement instable, il ne disparaîtra pas. Donc il faut réfléchir à ce qu'il y aura après la FINUL. Il faudra de toute façon qu'il y ait une présence internationale. Et donc ça, c'est quelque chose qui préoccupe tant Emmanuel Macron que donc, son interlocuteur, que son hôte, le Premier ministre libanais. Donc toutes ces questions-là ont été évoquées, continueront de l'être. Quelle formule faut-il trouver ? Il y a aussi un phénomène quand même que les Français ont honnêtement remarqué, c'est que le cessez-le-feu qui avait été obtenu il y a un peu plus d'un an, Paris était vraiment dans la manœuvre. Il y avait les Américains et les Français qui avaient un peu...
Ils avaient du pouvoir. Paris, on s'en souvient, avait pour rôle de contrôler l'application de ce cessez-le-feu.
Exactement. Il y a un mécanisme. Mais là, ce qu'on voit, il y a quand même une tentation américaine et israélienne de sortir les Français du jeu. Ils aimeraient bien tout régenter, mais ça, c'est à la Trump, comme d'habitude. Donc, pour la France et pour le Liban, il est très important que la situation reste comme elle est, c'est-à-dire avec la présence de plusieurs acteurs et non pas se retrouver juste face aux Américains et aux Israéliens pour tenter de régler leurs problèmes. Donc tout ça joue. Donc quel mécanisme ? Comment surveiller le cessez-le-feu ? Et surtout, comment avancer dans le futur, encore une fois, pour garantir à ce pays les moyens de se reconstruire et de repartir de l'avant.
Alors, il est important de connaître la personnalité de Donald Trump pour répondre au sujet de cette émission. Donald Trump et la diplomatie de la menace, jusqu'où faut-il le prendre au sérieux ? Quel a toujours été le moteur de Donald Trump ? Donald Trump qui était une personnalité controversée avant même d'entrer en politique. Il faisait partie de la culture populaire, comme le souligne à notre micro Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis.
C'est vrai que Donald Trump faisait partie de la culture populaire. Il était extrêmement présent médiatiquement. Un homme riche, né avec une cuillère d'argent, qui évolue dans le grand monde américain, dans l'intelligentsia à la fois politique, financier et de l'entertainment, forcément, cette personnalité-là intéressait. Comme en plus, il était transgressif, eh bien, on parlait beaucoup de lui. On a parlé de lui dans énormément de films et de séries, y compris dans la série Friends, dans laquelle il est cité à un moment. Ou dans les Simpsons, où il est également cité. Vous voyez, dans la culture populaire, c'était quelqu'un qui apparaissait partout. Il ne rechignait jamais à faire le clown sur les plateaux, malgré son statut si important. Et il a lui-même animé des émissions comme The Apprentice, où il a acheté le concours de Miss Univers qui lui appartenait. Et donc, c'était quelqu'un qui apparaissait tout le temps dans la vie des Américains. Donc, c'est aussi ce qui a aidé à sa candidature. Quand le 16 juin 2015, il a annoncé sa candidature, tout le monde a titré « Un clown se présente ». Mais mais parce que c'était comme ça qu'on le ressentait. Mais en même temps, il était déjà hyper célèbre. Or, pour être élu aux États-Unis, il faut que tout le monde connaisse votre nom. Or, de tous toutes les personnalités américaines qu'on pouvait citer, c'est celui qui arrivait en tête dans la reconnaissance de toutes les personnalités américaines. Il y a eu énormément d'études là-dessus qui l'ont montré. Les gens connaissaient le nom de Donald Trump, sa tête, savaient à qui ça correspondait. Et donc, il lui restait à changer son image pour pouvoir devenir président. Et c'est là-dessus qu'il a effectivement réussi son pari.
Et pour l'anecdote, le personnage de Biff dans Retour vers le futur 2 de Steven Spielberg était inspiré de Donald Trump. C'est ce qu'a affirmé Steven Spielberg. Alors, ce personnage prend la tête d'une ville et crée le chaos dans cette ville. Voilà, c'est un élément intéressant, Henri Vernet.
Oui, c'était bien vu, parce que c'est vrai que pour l'instant, il a l'image vraiment du shérif avec son gros bâton et qui dynamite totalement l'ordre mondial.
Ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Henri Vernet, journaliste, écrivain, spécialiste des questions internationales. C'était Coulisses politiques avec le journaliste et écrivain Henri Vernet, un podcast disponible sur Spotify et sur radioorient.com.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet, présenté par Nadia Bencher.